Conférence privée du noviciat par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 10 décembre 1992.
Quand Saint Ignace dit qu'il faut obéir, dans l'intention de l'agneau, c'est-à-dire celui qui offre sa vie. Chaque fois que vous obéissez, vous offrez quelque chose de votre vie. C'est sûr. Et quelquefois, vous obéissez, vous offrez toute votre vie. L'obéissance dans le martyr. On ne veut pas faire quelque chose qui soit contraire à la volonté du Père. Et on sait qu'en faisant ça, on sera martyr. Assiste au martyr de ses sept fils dans le livre de Maccabée, la mère admirable. Ils obéissent, ils acceptent le martyr plutôt que d'aller contre la loi divine. Alors il peut se faire que ça, mais on obéit comme l'agneau à ce moment-là, on accepte d'être immolé. Comprenez que l'obéissance, pour être totalement divine, réclame d'être humaine. Pour être humaine, elle implique la prudence. Et pour être tout à fait divine, elle implique une prudence éclairée par le don de conseil. Une prudence qui va très loin dans la totale confiance. On coopère quand on obéit avec celui qui a autorité. Dans les caricatures de l'obéissance. Parce que obéir aveuglement, c'est une caricature de l'obéissance. Obéir scrupuleusement, c'est une caricature de l'obéissance. Obéir automatiquement, c'est une caricature. C'est très vrai que l'obéissance permet des quantités de caricatures, parce que c'est la vertu de l'exécution. Mais il faut que cette exécution, pour être obéissante, soit humaine et qu'elle soit même divine.
Une recherche univoque.
diverses manières d'être autonome. Et celui qui obéit peut, dans son obéissance, manifester son autonomie. Quand j'obéis aujourd'hui à un supérieur, je montre mon autonomie par rapport au freudisme. Je ne suis pas l'esclave du freudisme. Il y en a tellement qui sont esclaves du freudisme. Donc en obéissant, je montre mon autonomie. Il ne faut pas hésiter de le dire du reste. Ils sont coincés quand on dit ça. Ils viennent, je suis autonome, j'obéis, alors que c'est plus à la mode. Donc je suis très autonome et je le fais vraiment parce que par conviction, je sais qu'il faut le faire. En tant qu'homme et en tant que chrétien. Et je peux montrer à ce moment-là que obéir augmente ma capacité de liberté. Ce qui est très important. Ma capacité de liberté, parce qu'en obéissant, je coopère avec quelqu'un qui a l'autorité sur moi, donc qui est plus que moi, qui a une tête de plus, qui comprend mieux ma finalité. Et donc, en coopérant avec lui, j'acquiers tout son acquis. Et par le fait même, j'ai une autorité plus profonde, j'ai une autonomie plus profonde qu'avant. Et donc l'obéissance augmente ma capacité de liberté. Parce que l'obéissance me permet d'aimer plus et d'aimer mieux. Ça, c'est pas comment le faire comprendre. D'abord pour nous. Il faut d'abord le comprendre pour soi. Puis ensuite l'expliquer. Et quand vous aurez l'expérience de cette obéissance qui augmente en vous votre liberté, vous pourrez l'expliquer aux autres. Il y a une question, oui. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a ?
Est-ce que vous pouvez développer cet aspect qui fait que l'obéissance nous donne plus de liberté ?
Oui, oui. Parce que si en obéissant vous coopérez avec l'autorité, l'autorité par définition, c'est celui qui a une vision plus profonde de la fin que vous. Normalement. Donc en obéissant et en coopérant, vous entrez dans un regard plus profond, vous avez de votre finalité. Vous vous approchez de votre finalité en obéissant.
Et au point de vue chrétien, ça...
Au point de vue chrétien...
Que notre supérieur...
C'est... Oui, notre supérieur est mandaté par Dieu. Il est mandaté par le Christ. Donc c'est au Christ que vous obéissez. En réalité, ce que disait le Père Sertilange, c'est au seul choix, je me souviens... D'une façon classique, les supérieurs, les prieurs étaient quand même des religieux d'un âge respectable. Nouvelle élection, un prieur très jeune. Parce que la majorité de ceux qui votaient étaient jeunes et voulaient quelqu'un de beaucoup plus jeune. Alors, un de ces jeunes pères, on appelait les jeunes pères ceux qui continuent leurs études après le sacerdoce, il y avait 2 ans d'études, dit au Père Sertilange, c'est merveilleux. Vous voyez maintenant, un jeune prieur, il va nous comprendre. Il est de notre génération, il va nous comprendre. Alors, le Père Sertilange le regarde. Ah, vous n'êtes pas fier. Oui, vous n'êtes pas fier. Moi, quand j'obéis au Christ. Vous obéissez à un homme. Et c'est vrai, dans la religieuse, on n'obéit pas à un homme. On n'exige pas que le supérieur. Quand le supérieur est plus intelligent que vous, tant mieux. Ça peut arriver, heureusement. Tant mieux. Mais c'est pas forcé. C'est pas forcé. Autant que possible, on met des gens intelligents comme supérieurs. c'est très bien, mais autrement. Je ne parle pas du fondateur qui automatiquement est supérieur, alors là c'est autre chose. Et les autres sont choisis, vous voyez. Celui-là, c'est moi. Mais on coopère avec lui. Et en coopérant avec lui, on a une vision nouvelle. Vous voyez, je crois personnellement, vous voyez, que Jésus meurt dans l'obéissance au Père. Il faut voir le type de cette obéissance. On va essayer de le voir après. Et je crois que quand Jésus obéit au Père, dans son humanité sainte, il acquiert une nouvelle liberté. Et cette nouvelle liberté, elle se traduit par le don qu'il nous fait de sa mère. Ça. Parce que c'est assez extraordinaire et c'est très beau, c'est très grand ça. Vous voyez, donner sa mère exige une nouvelle liberté. Sa mère lui a été donnée par le Père. Donc il est lié à Marie par la volonté du Père. Et en acceptant de mourir, il a un nouveau regard sur Marie. Il est comme au-delà du don que le Père lui a fait de Marie. Il peut donner Marie à Jean comme mère. Il peut dire le cri de soif pour montrer que même ce mystère de la croix n'exprime pas tout l'amour qu'il y a en lui. Mais là, il faut une nouvelle liberté. Et quand il remet tout entre les mains du Père, alors il revient à l'obéissance. Une main douceoise. Vous voyez ? Et quand on réfléchit bien, on voit très bien qu'il faut que chaque acte d'obéissance, fait prudemment dans une prudence divine, sous l'exercice de ton conseil, nous donne cette nouvelle liberté. Je ne sais pas, chaque fois qu'on obéit, d'une façon un peu, vous voyez, un acte d'obéissance qui vous coûte. C'est un acte d'obéissance qui pèse, hein, c'est quelque chose qui vous coupe un peu la tête, n'est-ce pas ? Et alors, en Pologne, quand j'étais en Pologne, j'ai vu le tableau, j'avais vu ce tableau-là, de tous ces dominicains qui vont se faire couper la tête, martyrs. Et qui portent leur tête. On voit ça, on voit une sculpture, c'est très ancien. J'aime beaucoup ça, comme la symbolique de l'obéissance. On vous coupe la tête et on vous demande de marcher. C'est exactement ça, venez. On vous dit, vous ferez ceci. Vous vous sentez complètement en dehors de la possibilité de faire ça. Vous le faites parce qu'on vous le demande. Vous faites le mieux possible parce qu'on vous le demande. Mais vous le faites en fonction de la tête du supérieur. Dans une communauté, c'est pas la tête du supérieur, c'est la tête du Christ qui remplace la tête de tous ceux qui obéissent. Chaque fois que vous obéissez, vous avez la tête du Christ. Si on voyait divinement une communauté, on verrait ça. C'est la réalisation plénière de l'unité du Christ avec ses membres. Et ça, c'est très, très grand et très beau. Et on acquiert cette liberté du Christ. Alors, pourriez-vous nous parler de l'autorité ? Comment doit-elle s'exercer ? Alors là, c'est un autre chapitre. C'est plus l'obéissance, c'est celui qui doit exercer l'autorité. Alors, l'autorité à tous les stages. Il est dit dans notre règle de vie que nous souhaitons, donc l'Esprit Saint souhaite, Nous souhaitons que dans la communauté Saint-Jean, l'autorité soit exercée à la manière dont Joseph exerçait l'autorité. C'est pas Marie qui est modèle pour l'exercice de l'autorité. Marie, elle a toujours obéi. Elle a eu cette chance. Je me souviens, quand le père Do était sur la fin de sa vie, il m'a dit: j'ai eu une grâce énorme dans ma vie. Je n'ai jamais eu l'autorité dans l'ordre. Je l'ai avalé, moi. Grâce énorme, j'ai jamais exercé l'autorité dans l'ordre. J'ai toujours obéi. C'est vrai, c'est une grâce énorme de toujours obéir. Marie n'a jamais exercé l'autorité, sauf l'autorité maternelle, qui est une autorité toujours en union avec celle du Père. Une mère exerce l'autorité dans l'unité qu'elle a avec son époux, comme mère. Ça, c'est très visible dans les veuves de guerre, par exemple. Une veuve de guerre ne se remarie jamais. Et elle exerce l'autorité toujours avec l'intention de celui qui est mort mais qui est présent. Ça, c'est très très net. Moi, ça m'a beaucoup frappé de voir ça. Et c'est comme ça que l'autorité maternelle s'exerce. Donc, Marie n'a jamais exercé l'autorité, c'est Joseph. Exercer l'autorité auprès de la Très Sainte Vierge, vous comprenez? Ça vous donne chaud au cœur. C'est-à-dire qu'on sait qu'on exerce l'autorité auprès de quelqu'un de beaucoup plus intelligent, de beaucoup plus saint, de beaucoup plus aimant. Et donc ça fait qu'on exerce l'autorité avec un désir ardent d'être pleinement dans la volonté de Dieu. Et on l'exerce comme un service. Et je crois que l'autorité doit toujours être exercée comme un service. C'est ça qui nous est demandé. Avec les trois qualités du serviteur. Alors les trois qualités du serviteur, j'espère que vous les savez par cœur. Hein, parce qu'elles sont, inscrites dans l'Écriture. Le serviteur doit être fidèle. Le serviteur doit être doux. Le serviteur doit être pauvre. Donc exercer l'autorité selon le modèle de Saint Joseph. Exercer l'autorité dans la congrégation Saint Jean. C'est exercer l'autorité avec fidélité, c'est-à-dire entrer dans l'intention profonde de ceux qui nous ont donné l'autorité. On est là mandaté par le Christ. On doit entrer dans son intention. On doit le faire avec douceur. Donc ne jamais exercer l'autorité comme un pouvoir extérieur. Avec douceur pour ne jamais blesser. C'est l'autorité en portant celui à qui on demande d'exercer l'obéissance, c'est-à-dire coopérer avec lui. Parce que si celui qui obéit doit coopérer, celui qui exerce l'autorité doit coopérer. Et nous ne devons pas considérer que celui qui obéit est tout simplement un exécutant. Un simple exécutant, on lui dit pas fais ceci, puis c'est tout. Hein. Ah, pourquoi vous dites fais ceci? Allez. Quand on commande à un chien, il exécute. On lui donne pas d'explication. Alors, de temps en temps, l'autorité ne donne aucune explication. Si on sait, et je me souviens, c'était le père Doug qui m'a ne lui ordonne pas. C'est très beau, ça. Oui, c'est exercer l'autorité avec vraiment la douceur de Dieu. Soi-même, on obéit en exerçant l'autorité. Donc on est tout. Vous obéissez à ce que l'Esprit Saint réclame de vous. Est-ce que l'Esprit Saint réclame de telle ou telle personne? Donc on obéit avec ce souci de communiquer quelque chose qui vient d'en haut. Et pauvrement, on ne fait pas son œuvre. On ne s'enrichit pas en exerçant l'autorité. Ce serait quelque chose qui ne serait plus de Dieu. Donc comment doit-elle s'exercer? Jésus a reçu toute autorité de la part du Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il a reçu toute autorité de la part du Père. C'est ça que ça veut dire. Le Père lui a tout donné. Le gouvernement sur toute l'Église. L'autorité sur toute l'Église et sur chacune de ses brebis. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, fais paître mes brebis. Là on voit bien la douceur de l'autorité. Ce ne sont pas les brebis de Pierre. Tandis qu'il dit à Marie, voilà ton fils. Il ne dit pas à Marie, voilà mon fils. Je te confie mon fils. Non, non, voilà ton fils. Il faut bien regarder ces deux paroles qui nous deux alliances. L'alliance avec Marie, l'alliance avec Pierre, qui est totalement différente. La règle de vie parle d'une autorité semblable à celle de Joseph. Quelle est-elle? C'est l'autorité fidèle, douce et pauvre. Alors, enfin, dernier lieu, quel lien y a-t-il entre obéissance et contemplation?
Sommeil, ça compte à la fin d'année.
C'est pas grand-chose sur le moment. obéissance. Ceci est dans l'Écriture. Donc, vous êtes obligé de l'accepter. Et je vous ai déjà dit que c'est très très important, du moins, si c'est pas à vous, c'est à d'autres. Et c'est très important de le comprendre. C'est cela qui nous fait comprendre le pourquoi de l'Église. Les jeunes d'aujourd'hui ont de la peine à accepter l'Église. Et vous demanderont tout le temps pourquoi. Et peut-être nous-mêmes. Pourquoi la communauté? Pourquoi l'Église? Bien, si l'Église existe, c'est pour être le lieu des grands pâturages. Et le lieu des grands pâturages, c'est le lieu où la parole de Dieu est donnée, où le pain de Dieu est donné, où l'obéissance est donnée. Mais c'est pour ça que un couvent, un prieuré, est un lieu de grand pâturage. Ça, c'est évident. Même quelquefois, on peut en avoir de trop. C'est pour les vaches maigres. Mais au fond, c'était le lieu de la parole de Dieu, du pain de Dieu. C'est très important, d'autre part, quand on compare les diverses églises chrétiennes. Seule l'Église catholique a les trois paroles. L'Église orthodoxe en a deux, et l'Église protestante n'en a plus qu'une. C'est désolant, mais c'est important de le saisir. Oui.
Quand j'ai dit à ma mère que l'Église orthodoxe n'avait pas la nourriture de l'obéissance, elle m'a dit, mais ceux qui font, qui veulent faire la volonté de Dieu, ils ont bien...
Oui, mais la volonté de Dieu, dans votre point de vue intime de vous, c'est faire la volonté de l'Esprit Saint. Mais est-ce que c'est toujours sûr que c'est l'obéissance de l'Esprit Saint? Pour être sûr, et pour que cette union, cette obéissance affective devienne effective, toujours la même chose de Thomas d'Aquin, l'union affective doit devenir une union effective. Et l'union effective, c'est pour que l'union affective soit plus forte. Donc on passe toujours. Or, l'obéissance à l'Esprit Saint nous donne une union affective. Ça, c'est sûr. Qu'il y ait une union effective, il faut que cette obéissance à l'Esprit Saint s'incarne. Et pour que l'obéissance s'incarne, il faut que l'autorité s'incarne. Obéir à l'Esprit Saint, c'est obéir au pape. Vous ne pouvez pas opposer l'autorité de l'Esprit Saint à celle du pape, dans le domaine où le pape a autorité. Obéir à l'Esprit Saint, c'est obéir, si vous êtes religieux et vous avez fait profession, c'est obéir à vos prieurs. Alors si vous gommez le pape, gommez les évêques et gommez le prieur, il n'y a plus que l'union affective. Alors, chez les saints, c'est parfait, et ceux qui sont moins saints, c'est moins parfait. Parce qu'on n'acquiert pas l'union affective qui augmente. Vous voyez, c'est ce qu'il faut dire tout de suite. Vous voyez, c'est que le point de vue de l'obéissance va impliquer ces deux aspects. D'où l'obéissance passe à travers une autorité incarnée. Pour qu'on passe de l'union affective à l'union affective. Oui. On a tous besoin de ça. Alors, il faut comprendre que, de fait, ces trois nourritures sont parallèles l'obéissance nourrit la charité et que l'espérance aussi regarde le banni, qui est une promesse. Oui, alors, il ne faut pas comprendre ça d'une façon univoque. Il faut aussi, l'espérance regarde aussi la parole de Dieu, en tant qu'elle est une promesse. Et la charité regarde aussi la parole de Dieu. Donc, comprenez-les comme un sommet. Et c'est en ce sens-là que je dis que l'obéissance est la nourriture caractéristique de l'espérance. Et ceci, je l'ai vu, des confirmations étonnantes dans le point de vue apostolique. Je me souviens très bien d'une prédication, je ne dis pas où. Je me suis trouvé devant un séminariste, un jeune prêtre, qui m'a dit, point de vue direction spirituelle, j'ai beaucoup, beaucoup de peine de vivre de l'espérance. Or, je venais, avant de réfléchir beaucoup là-dessus, alors je lui ai dit, est-ce que vous obéissez beaucoup dans votre vie? Alors, il m'a répondu du tac au tac, j'ai jamais obéi dans ma vie. On dit quoi? Jamais obéi, non. Vous voyez, au fond, on me dit toujours que je suis intelligent. Je crois que c'est vrai. Me dit-il, je crois que c'est vrai. Humblement, je crois que c'est vrai. Intelligent. Alors, quand j'étais séminariste, les supérieurs me demandaient conseil. Et ils prenaient toujours mon conseil. Donc je n'obéissais pas. Puisque je faisais ce qui me semblait être le plus intelligent. Et avant, ça a toujours été un peu comme ça. Avec mes parents, considérés comme intelligents, et plus intelligents qu'eux, je n'obéissais pas. Je me dis, ah, c'est pas étonnant alors. Vous n'avez jamais nourri votre espérance. Alors j'ai essayé de l'expliquer. Il a compris. Oui, la vertu de l'espérance, elle s'appuie. C'est la vertu qui nous relie au Père. L'Esprit Saint. Le Verbe. Elle regarde la promesse de Dieu. Et une promesse qui nous dépasse complètement. Une promesse qui ne peut se réaliser qu'avec le secours de Dieu. La toute-puissance de Dieu. Ah, le secours de Dieu. Donc la volonté de Dieu. Et le fait de coopérer à cette volonté. Une volonté d'amour, une volonté de miséricorde. Là, on y coopère. On coopère avec la volonté de Dieu par l'obéissance. Et donc, directement, l'obéissance me met tout proche de cette volonté du Père. C'est très important, ça, vous voyez, parce que l'obéissance va nous permettre de lutter contre l'angoisse. Si on a une tendance vers l'angoisse, soyons toujours, toujours dans l'obéissance pour se fortifier. L'obéissance, l'espérance fortifie. L'espérance augmente l'élan dans notre vie. Et nous permet d'aller plus vite. Et souvent, très souvent, la rapidité empêche le retour sur soi. Empêchant le retour sur soi permet d'être tout entier ordonné vers la fin qu'on essaie d'acquérir. Et donc à ce moment-là, on comprend comment l'obéissance fortifie notre espérance. Tu es dedans. Est-ce que vous voyez bien ça? C'est très très important ça, dans notre vie concrète, dans notre vie intérieure, dès qu'on voit que... Et vous voyez, aujourd'hui, c'est la grande crise aujourd'hui, c'est la crise par rapport à l'espérance. Je me souviens d'un missionnaire qui revenait d'Afrique, un évêque. Un évêque revenant d'Afrique en me disant ce que je constate avant tout, c'est comme au fond l'Église en Europe est sur une pente glissante du désespoir. Et je crois que c'est vrai, le nombre de suicides provient toujours du désespoir. Si on avait plus d'espérance, on ne se suiciderait pas. Il y a une espèce de ressort de cassé, vous voyez. Et on a une peine énorme à se mettre dans l'espérance. Et pourquoi? C'est qu'il y a très peu d'obéissance dans l'Église actuelle. On critique l'autorité du pape, on critique l'autorité des évêques, on critique l'autorité de tous. L'enfant critique l'autorité des parents, vous voyez, c'est la crise d'autorité engendre une crise d'obéissance qui a une répercussion sur la fragilité de l'espérance. Ça, c'est automatique. Il y a là quelque chose de très, très net. Alors, maintenant, regardons. Je crois que pour l'obéissance, j'ai envie de terminer sur ce petit chapitre de l'obéissance. Regardez l'obéissance dans le Christ. Parce que c'est ce que nous disons dans notre liturgie par rapport au vœu. On regarde comment Jésus a vécu l'obéissance. Jésus a vécu l'obéissance d'une façon exemplaire, c'est sûr. Mais Marie aussi. Obéissance à Marie, à l'Esprit Saint, pour réserver ce qu'on disait tout à l'heure, à Marie, à Joseph. Il se situe toujours sous l'obéissance de l'Esprit Saint. Ne vous dites pas que je sois tout entier aux affaires du Père. Il y a une rupture par rapport à Joseph et à Marie quand Jésus a 12 ans, pour que nous comprenions mieux d'où vient toute obéissance du Père. C'est vrai, le cinquième mystère joyeux, soit Dieu là, est extrêmement éloquent. Jésus a obéi ensuite quand Joseph est mort. On ne sait pas à quel âge Jésus avait. Jésus a pris l'autorité. Joseph est mort, ça c'est sûr. Mais continuez d'obéir à l'Esprit Saint. Jésus n'a pas obéi à autre chose que la conduite de l'Esprit Saint. Transforme. Il a obéi à la loi. Puis surtout, il a terminé sa vie dans l'obéissance. Alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Quelle autorité le Père a-t-il sur Jésus? Il a une autorité dans l'ordre de l'amour qui est total. Il lui demande l'offrande de sa vie. sur son fils bien-aimé une autorité complète. Dans le mystère de la très sainte Trinité, le Père n'exerce aucune autorité. Ce qui est aussi très important à bien comprendre, parce que ça nous fait comprendre que la paternité comme paternité n'implique pas l'autorité. Le Père dans la très sainte Trinité est Père, est parfaitement Père. Il n'exerce aucune autorité sur le Verbe et sur l'Esprit-Saint. Il peut l'exercer, mais pas dans la très sainte Trinité. Le Père va exercer son autorité sur l'humanité sainte du Christ. Et sur l'humanité sainte du Christ, il exerce une autorité paternelle. Une autorité absolue paternelle. Il commande à Jésus. Il exerce donc sur l'autorité. Il exerce son autorité sur l'humanité sainte du Christ, une autorité d'amour parfaite. Et dans cette autorité, il lui demande l'offrande de sa vie. Et l'offrande de sa vie selon telle modalité, c'est-à-dire l'offrande de, la vie, de sa vie à travers le mystère de la croix. Pour que d'une certaine manière, cet holocauste soit absolument parfait. Et c'est vrai, quand je regarde l'offrande de la croix, je vois que l'offrande de la croix implique toutes les morts. Donc c'est l'offrande la plus parfaite qui soit. Cette offrande absolument parfaite s'exerce à travers le cœur de Jésus dans un amour parfait. Et dans le cœur du Christ, où il n'y a pas l'espérance, où il n'y a pas la joie, la foi, mais où il y a un amour parfait, cette obéissance est parfaite, elle est plénière. Jésus coopère pleinement à la volonté du Père. Et tout le mystère de la croix, il le vit dans cette union avec le Père, dans cette unité avec le Père. Philippe, qui me voit, voit le Père. Vous voyez, c'est parfaitement vrai à la croix. Parce que là, il est un avec le Père. Et une obéissance, vous voyez, toute d'amour. Tout transformé par l'amour. Une obéissance qui va jusqu'au bout. Une obéissance héroïque. Qui demande le sacrifice de toute sa vie. Et qui demande d'aller jusqu'au bout comme offrande. Il ne garde rien pour lui et tout est offert et tout est brûlé. C'est l'obéissance du Fils bien-aimé. Et Jésus veut que ce soit l'acte ultime de sa vie pour nous montrer le modèle. Et cela donne à la